France Inter. Les admirations littéraires de
François Sureau. Bonsoir. Aujourd'hui, nous vous proposons de passer quelque temps en compagnie de cet inlassable conteur et de cette personnalité très attachante qui était Prosper Mérimée.
Voulez-vous nous décrire un peu vos impressions personnelles sur lui ?
Le voici, tel que je l'ai aperçu la première fois, beau dans ses cheveux blancs, lui qui avait été si laid dans sa jeunesse.
Ferdinand Bach, écrivain, qui rencontra, quand il était enfant, Mérimée.
Il souffrait d'une sensibilité rentrée. Elle lui venait de sa laideur quand il était jeune, de son ironie quand il était vieux.
J'aime beaucoup Mérimée. Son air de persifleur glacé, l'affectation du genre anglais, ont très souvent caché son extrême sensibilité et quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il n'en est rien. José Cabanis, dans un petit texte, a pu soutenir sans se tromper que le grand amoureux du 19e siècle, ça n'est pas Victor Hugo, mais lui. Après avoir été quitté par Valentine de Lesser, il n'écrit plus rien qui vaille. Il devient historien, traduit la littérature russe et passe l'hiver à Cannes, où il va mourir. Prosper Mérimée était le fils d'un historien de l'art, auteur d'un traité des Vernis qui ne l'avait pas fait baptiser. Et Mérimée a hérité du cynisme, de l'irréligion, de la rapidité du 18e siècle. Et pourtant, quand il entre en littérature, c'est en prenant les couleurs du romantisme le plus vif. Il se fait un nom au théâtre, le théâtre de Clara Gazul, et c'est une danse envoûtante, où passent des femmes diaboliques et sensuelles, traquées par des inquisiteurs diaboliques, de jeunes rebelles espagnols, des amants féroces ou volages.
Don Juan, tu es un brave espagnol, je vais t'ouvrir mon cœur.
Ah, parlez, général, je grille d'impatience.
Avec partout cette ironie féroce et flegmatique qui sera sa marque.
Sais-tu qui tu as sauvé ?
Un pêcheur, peut-être, un contrebandier.
Un officier anglais, le lieutenant du Royal George.
Et puis Mérimée, c'est aussi une génération. Sa vie avec Nodier, Ampère, Sutton Sharp, et surtout Stendhal, dont il tracera le portrait dans le célèbre HB par l'un des 40. Les 20 volumes de la correspondance de Mérimée sont entraînants. On y croise toutes les figures du temps, auxquelles il s'adresse avec une rapidité élégante et brutale, demandant au doctrinaire Royer Collard, un personnage pas particulièrement joyeux, de faire parvenir un manuel du Kama Sutra à l'un de leurs amis, ou chapitre entière à leur ministre sur la dégradation des églises par le Batignolles moderne. On y croit surtout Victor Jacquemont, ce voyageur tout à fait oublié aujourd'hui et qui était le génie de leur petit cercle. Naturaliste, ethnologue, méditant une grande œuvre qu'il n'a jamais écrite, parti en Inde par désespoir d'amour, Jacquemont devait y mourir à 30 ans. Mérimée entretiendra en vain sa mémoire et la correspondance de Jacquemont montre l'écrivain exceptionnel qu'il se préparait à devenir. Comme tous les gens un peu sensibles, Mérimée était politiquement insaisissable. Sans doute très peu démocrate, un peu à la manière de Stendhal qui disait « J'aime mieux faire la cour au ministre de l'Intérieur qu'à mon bottier », il avait commencé comme fonctionnaire sous Louis-Philippe, pour se rallier à l'Empire, qu'il fera sénateur, par amitié pour l'impératrice Eugénie qu'il avait connue jeune fille en Espagne. Et pourtant, il n'avait pas du tout cette propension des hommes de l'ordre à croire qu'ils vivent dans le meilleur des mondes possibles, que la richesse est une qualité morale et que les pauvres ont d'une certaine manière mérité leur sort. Un dernier mot sur Mérimée, on lui doit l'idée du patrimoine. Nommé inspecteur des monuments, il sauva de la destruction les monuments mis à mal par les tourments politiques et Vézelay en premier lieu. Il portait, dit-on, une bague à l'intérieur de laquelle on pouvait lire « Souviens-toi de te méfier ». La vérité est qu'au-delà des apparences, il avait bien besoin de ce rappel. Il ne s'est guère méfié, et c'est aussi pour cela qu'on peut l'aimer.
Qu'est-ce qui vous a le plus attiré vers ce vieillard ? Ce n'était certainement pas ses rapports archéologiques.
Ce qui m'intéressait, c'est que des méchants avaient affirmé qu'il avait fait de la prison. Comment était-ce possible d'avoir fait de la tôle et d'être en même temps inspecteur des monuments et immortel? Cette faveur dont il avait joui, je parle de la prison, il la devait au fait d'avoir insulté la magistrature.
Dans le premier texte que j'ai choisi, il fait le portrait de son ami Stendhal, HB, dans le texte, le petit livre qui s'appelle HB par l'un des 40. L'un des 40, c'est l'un des 40 membres de l'Académie française. Mérimée en était, Stendhal n'en était pas. Mérimée est d'ailleurs, à ma connaissance, le seul membre de l'Académie française qui était condamné en correctionnel après s'être présenté à la barre, alors même qu'il était membre de l'Académie, pour avoir critiqué une décision de justice. Et ce portrait donc s'appelle HB par l'un des 40. HB, c'est le nom de Stendhal, Henri Bayle. Alors, dans le texte lui-même, il le mentionne simplement par l'initiale, mais pour la lecture, j'ai choisi de donner véritablement le nom de Bayle. Sans ça, c'est un peu plus difficile à entendre. Il avait emporté de Moscou le volume des facéties de Voltaire, relié en maroquin rouge, qu'il avait pris dans une maison qui brûlait. Ses camarades trouvaient cette action un peu légère. Dépareiller une magnifique édition, lui-même, en éprouvait une espèce de remords. Un matin, aux environs de la Bérézina, il se présenta à M. Daru, rasé et habillé avec quelques soins. « Vous avez fait votre barbe, lui dit M. Daru, vous êtes un homme de cœur. » M. B, auditeur au Conseil d'État, m'a dit qu'il devait la vie à Bayle, qui, prévoyant l'encombrement des ponts, l'avait obligé à passer la Bérézina le soir qui précéda la déroute. Il fallut employer presque la force pour obtenir qu'il fît quelques centaines de pas. En 1813, Bayle fut témoin involontaire de la déroute d'une brigade entière chargée inopinément par 5 Cosaques. Bayle vit courir environ 2000 hommes, dont 5 généraux reconnaissables à leur chapeau brodé. Il courut comme les autres, mais mal, n'ayant qu'un pied chaussé et portant une botte à la main. Dans tout ce corps français, il ne se trouva que 2 héros qui firent tête aux Cosaques, un gendarme nommé Menval et un conscrit qui tua le cheval du gendarme en voulant tirer sur les Cosaques. Bayle fut chargé de raconter cette panique à l'empereur, qui l'écoutait avec une fureur concentrée en faisant tourner une de ces machines en fer qui servent à fixer les persiennes. On chercha le gendarme pour lui donner la croix, mais il se cachait et nia d'abord qu'il eût été à l'affaire, persuadé que rien n'est si mauvais que d'être remarqué dans une déroute. Il croyait qu'on voulait le faire fusiller. Sur l'amour, Bayle était encore plus éloquent que sur la guerre. « Je ne l'ai jamais vu qu'amoureux ou croyant l'être, mais il avait eu 2 amours-passions, je me sers d'un de ces termes, dont il n'avait jamais pu guérir. Le premier en date, je crois, lui avait été inspiré par madame, alors dans tout l'éclat de sa beauté. Il avait pour rivaux bien des hommes puissants, entre autres un général fort en faveur, qui abusa un jour de sa position pour obliger Bayle à lui céder sa place auprès de la dame. Le soir même, Bayle trouva moyen de lui faire tenir une petite fable de sa composition dans laquelle il lui proposait allégoriquement un duel. Je ne sais pas si la fable fut comprise. Mais on n'accepta pas la moralité et Bayle reçut une verte semonce de M. Daru, son parent et son protecteur. Il n'en continua pas moins ses poursuites. En 1836, Bayle me racontait cette aventure, le soir, sous les grands arbres de la promenade de l'An. Il ajoutait qu'il venait de voir madame, âgée alors de 47 ans, et qu'il s'était trouvé aussi amoureux qu'au premier jour. L'un et l'autre avaient eu bien d'autres passions dans l'intervalle. « Comment pouvez-vous m'aimer encore à mon âge ?» disait-elle. Il le lui prouvait très bien. Et jamais je ne l'ai vu montrer tant d'émotions. Il avait les larmes aux yeux en me parlant.
Antonia Fonyi, chercheuse au CNRS.
Mérimée, évidemment, il aimait aussi son canailler, en compagnie de Stendhal. Il y a cette petite anecdote, n'est-ce pas, quand ils sont à Londres ensemble, il y a une dame qui plaît à tous les deux. Et Stendhal conjure Mérimée de lui laisser seulement ne serait-ce que 2 semaines pour jouir de cette aventure. Ce à quoi Mérimée, tout à fait distant, répond « Oh, n'importe comment, vous pouvez l'apprendre, étant donné que l'autre jour, en montant l'escalier devant moi, j'ai vu que son bas faisait des plis. »
Il ne supporte pas qu'un bas plisse. Hein.
Les admirations littéraires de François Sureau.
Se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos. Solo recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos.
François et Victoire Sureau lisent des textes de Prosper Mérimée.
Mérimée, c'est aussi l'un des grands écrivains orientalistes, orientalistes au sens large, enfin, de l'Espagne à l'Orient. Et voici maintenant un portrait par lettre, tiré de sa correspondance, de la terre d'Espagne, dont il se servira ensuite dans Carmen.
Madrid, novembre 1830. Monsieur, me voici de retour à Madrid. Après avoir parcouru pendant plusieurs mois et dans tous les sens l'Andalousie, cette terre classique des voleurs, sans en rencontrer un seul, j'en suis presque honteux. Je m'étais arrangé pour une attaque de voleurs, non pas pour me défendre, mais pour causer avec eux et les questionner, bien poliment, sur leur genre de vie. En regardant mon habit usé au coude et mon mince bagage, je regrette d'avoir manqué ces messieurs. Le plaisir de les voir n'était pas payé trop cher par la perte d'un léger porte-manteau. À différentes époques, le gouvernement espagnol s'est occupé sérieusement de purger les grandes routes des voleurs, qui, depuis un temps immémorial, sont en possession de les parcourir. Ces efforts n'ont jamais pu avoir des résultats décisifs. Une bande a été détruite, mais une autre s'est formée aussitôt. Quelquefois, un capitaine général est parvenu, à force de soins, à chasser tous les voleurs de son gouvernement, mais alors les provinces voisines en ont regorgé. La nature du pays, hérissée de montagnes, sans routes frayées, rend bien difficile l'entière destruction des brigands. En Espagne, comme dans la Vendée, il y a un grand nombre de métairies isolées, aldeas, éloignées de plusieurs milles de tout endroit habité. En garnisonnant toutes ces métairies, tous les petits hameaux, on obligerait promptement les voleurs à se livrer à la justice, sous peine de mourir de faim. Mais où trouver assez d'argent, assez de soldats? Un voleur commence en général par être contrebandier. Son commerce est troublé par les employés de la douane. C'est une injustice criante pour les 9 dixièmes de la population que l'on tourmente un galant homme qui vend à bon compte de meilleurs cigares que ceux du roi, qui rapporte aux femmes des soieries, des marchandises anglaises et tout le commérage de 10 lieues à la ronde. Qu'un douanier vienne à tuer ou à prendre son cheval, voilà le contrebandier ruiné. Il a d'ailleurs une vengeance à exercer, il se fait voleur.
Et maintenant, écoutez-moi bien, vous allez remettre à mes enfants tout ce que vous avez, sans faire d'histoire, c'est compris?
Allons-y, papa, on les tue tous maintenant!
Combien de fois faudra que je te répète, sous l'eau, qu'on tire seulement quand papa appuie sur la gâchette?
Le modèle du brigand espagnol, le prototype du héros de grand chemin, le Robin Hood, le Roquet Guinard de notre temps, c'est le fameux José María, surnommé El Templanito, le matinal. C'est l'homme dont on parle le plus de Madrid à Séville, et de Séville à Malaga. Beau, brave, courtois, autant qu'un voleur peut l'être, tel est José María. S'il arrête une diligence, il donne la main aux dames pour descendre et prend soin qu'elles soient commodément assises, à l'ombre, car c'est de jour que se font la plupart de ses exploits. Jamais un juron, jamais un mot grossier. Au contraire, des égards presque respectueux et une politesse naturelle qui ne se dément jamais. Ôte-t-il une bague de la main d'une femme ? Ah, madame, dit-il, une aussi belle main n'a pas besoin d'ornement. Et tout en faisant glisser la bague hors du doigt, il baise la main, d'un air à faire croire, suivant l'expression d'une dame espagnole, que le baiser avait pour lui plus de prix que la bague. La bague, il la prenait comme par distraction. Mais le baiser, au contraire, il le faisait durer longtemps. On m'a assuré qu'il laisse toujours aux voyageurs assez d'argent pour arriver à la ville la plus proche, et que jamais il n'a refusé à personne la permission de garder un bijou que des souvenirs rendaient précieux.
La journée commence mal, Carmen.
Pourquoi?
Pas très bavard, le petit brigadier, hein?
Il s'appelle Don José et il est navarrais.
C'est lui qui te l'a dit?
Presque.
Menteuse, il n'a pas ouvert la bouche. Je l'ai entendu.
Tu n'as pas ouvert la bouche, comment as-tu pu l'entendre?
Allons, allons, un peu de silence, s'il vous plaît.
Elle tournait autour de lui comme un torero déçu autour d'un taureau paresseux. Elle avait beau le provoquer, il ne bougeait pas plus qu'un âne mort. Il faut en prendre ton parti, tu ne lui plais pas.
Je n'ai pas cherché à lui plaire. Tu penses, un navaret?
Eh bien quoi, un navaret? C'est encore trop bon pour une gitane.
Et à présent, nous allons passer de cette correspondance, de la notation prise sur le vif, au travail de l'écrivain Mérimée, se servant de ce qu'il a vu, de ce qu'il a rêvé, de ce qu'il a imaginé pour créer les personnages de Carmen.
Je suis né, dit-il, à Elizondo, dans la vallée de Bastan. Je m'appelle Don José Lizarra Bengos. Et vous connaissez assez l'Espagne, monsieur, pour que mon nom vous dise aussitôt que je suis basque et vieux chrétien. Si je prends le don, c'est que j'en ai le droit. Et si j'étais à Elizondo, je vous montrerais ma généalogie sur un parchemin. On voulait que je fusse d'église, et on me fit étudier, mais je ne profitais guère. J'aimais trop à jouer à la paume, et c'est ce qui m'a perdu. Quand nous jouons à la paume, nous autres Navarrais, nous oublions tout. Un jour que j'avais gagné, un gars de l'Alava me chercha querelle. Nous prîmes nos maquilas, et j'eus encore l'avantage, mais cela m'obligea de quitter le pays. Je rencontrais des dragons, et je m'engageais dans le régiment d'Almansa, cavalerie. Les gens de nos montagnes apprennent vite le métier militaire. Je devins bientôt brigadier, et on me promettait de me faire maréchal des logis, quand, pour mon malheur, on me mit de garde à la manufacture de tabac à Séville. Si vous êtes allé à Séville, vous aurez vu ce grand bâtiment-là, hors des remparts, près du Guadalquivir. Il me semble en voir encore la porte et le corps de garde auprès. Quand ils sont de service, les Espagnols jouent aux cartes ou dorment. Moi, comme un franc navarrais, je tâchais toujours de m'occuper. Je faisais une chaîne avec du fil de laiton pour tenir mon épinglette. Tout d'un coup, les camarades disent « Voilà la cloche qui sonne. Les filles vont rentrer à l'ouvrage. Vous saurez, monsieur, qu'il y a bien 4 à 500 femmes occupées dans la manufacture de tabac. Ce sont elles qui roulent les cigares dans une grande salle où les hommes n'entrent pas, parce qu'elles se mettent à leur aise, les jeunes surtout, quand il fait chaud. À l'heure où les ouvrières rentrent après leur dîner, bien des jeunes gens vont les voir passer. J'étais jeune alors, je pensais toujours au pays, et je ne croyais pas qu'il y eût de jolies filles sans jupe bleue et sans natte tout bon sur les épaules. D'ailleurs, les Andalouses me faisaient peur. J'étais donc le nez sur ma chaîne, quand j'entends des bourgeois qui disaient « Voilà la gitanilla !» Je levais les yeux et je la vis. C'était un vendredi, et je ne l'oublierai jamais. Je vis cette Carmen que vous connaissez. Elle avait un jupon rouge fort court qui laissait voir des bas de soie blanc, avec plus d'un trou, et des souliers mignons de maroquin rouge, attachés avec des rubans couleur de feu. Elle écartait sa mantille afin de montrer ses épaules et un gros bouquet de cassis qui sortait de sa chemise. Elle avait encore une fleur de cassis dans le coin de la bouche, et elle s'avançait en se balançant sur ses hanches comme une pouliche du haras de Cordoue. Dans mon pays, une femme en ce costume aurait obligé tout le monde à se signer. D'abord, elle ne me plut pas, et je repris mon ouvrage. Mais elle, suivant l'usage des femmes et des chats, qui ne viennent pas quand on les appelle, et qui viennent quand on ne les appelle pas, s'arrêta devant moi et m'adressa la parole, et prenant la fleur de cassis qu'elle avait à la bouche, elle me la lança, d'un mouvement du pouce, juste entre les deux yeux. Monsieur, ça me fit l'effet d'une balle qui m'arrivait. Je ne savais où me fourrer, je demeurais immobile comme une planche. Quand elle fut entrée dans la manufacture, je vis la fleur de cassis qui était tombée à terre, entre mes pieds, je ne sais ce qui me prit, mais je la ramassai, sans que mes camarades s'en aperçussent, et je la mis précieusement dans ma veste, première sottise. 2 ou 3 heures après, j'y pensais encore, quand arrive dans le corps de garde un portier, tout haletant, la figure renversée. Il nous dit que dans la grande salle des cigares, il y avait une femme assassinée. Le maréchal me dit de prendre 2 hommes et d'y aller voir. Je prends mes hommes et je monte. Figurez-vous, monsieur, qu'entrée dans la salle, je trouve d'abord 300 femmes en chemise, ou peu s'en faut, toutes criant, hurlant, gesticulant. D'un côté, il y en avait une, les 4 fers en l'air, couverte de sang, avec un X sur la figure, qu'on venait de lui marquer de 2 coups de couteau. En face, je vois Carmen, tenue par 5 ou 6 commères. La femme blessée criait « Confession, confession, je suis morte !» Carmen ne disait rien, elle serrait les dents, et roulait des yeux comme un caméléon. Le cas était clair, je pris Carmen par le bras. « Ma sœur, dis-je poliment, Il faut me suivre. Elle me lança un regard, comme si elle me reconnaissait, et elle dit d'un air résigné, « Marchons. Où est ma mantille ?» Elle la mit sur sa tête, de façon à ne montrer qu'un seul de ses grands yeux, et suivit mes deux hommes, douce comme un mouton. Nous nous mîmes en route pour la ville. D'abord, la bohémienne avait gardé le silence. Mais dans la rue du Serpent, vous la connaissez, elle mérite bien son nom, par les détours qu'elle fait, dans la rue du Serpent, elle commence par laisser tomber sa mantille sur ses épaules afin de me montrer son minois enjôleur. Et se tournant vers moi autant qu'elle pouvait, elle me dit « Mon officier, où me menez-vous ? À la prison, ma pauvre enfant, lui répondis-je. « Hélas, que deviendrai-je, seigneur officier ? Ayez pitié de moi, vous êtes si jeune, si gentil. » Puis d'un ton plus bas, « Laissez-moi échapper, dit-elle. Je vous donnerai un morceau de la barlachi qui vous fera aimer de toutes les femmes. » Le barlachi, monsieur, c'est la pierre d'aimant avec laquelle les bohémiennes prétendent qu'on fait quantité de sortilèges quand on sait s'en servir. Nous autres gens du Pays Basque, nous avons un accent qui nous fait reconnaître facilement les Espagnols. Carmen n'eut donc pas de peine à deviner que je venais des provinces. Vous saurez que les bohémiens, monsieur, n'étant d'aucun pays, voyageant toujours, parlent toutes les langues. Carmen savait assez bien le basque. « Camarade de mon cœur, me dit-elle tout à coup, êtes-vous du pays ? Notre langue, monsieur, est si belle que lorsqu'on l'entend en pays étranger, ça nous fait tressaillir. »« Je suis d'Elizondo, lui répondis-je en basque. »« Moi, je suis d'Etchalar, dit-elle. C'est un pays à 4 heures de chez nous. J'ai été emmené par des bohémiens à Séville. Camarade, mon ami, ne ferez-vous rien pour une payse ? » Elle mentait, monsieur. Elle a toujours menti. Ma foi, j'oubliais la consigne et tout. Et je lui dis, « Eh bien, mamie, ma payse, essayez, et que Notre-Dame de la Montagne vous vienne en aide. » À ce moment, nous passions devant une de ces ruelles étroites. Tout à coup, Carmen se retourne et me lance un coup de poing dans la poitrine. Je me laissais tomber exprès à la renverse. D'un bond, elle saute par-dessus moi et se met à courir en nous montrant une paire de jambes. En moins de temps que je n'en mets à vous le dire, la prisonnière avait disparu.
L'amour est un oiseau que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien en vain qu'on l'appelle s'il lui convient de refuser.
Et si je t'aime, si je t'aime.
me prends garde à toi.
François et Victoire Sureau lisent des textes de Prosper Mérimée.
Si vous avez tué un homme, allez dans le maquis de Porto Vecchio et vous y vivrez en sûreté, avec un bon fusil, de la poudre et des balles. Et vous n'aurez rien à craindre de la justice ou des parents du mort. Matteo Falcone, quand j'étais en Corse en 1800 et quelques, avait sa maison à une demi-lieue de ce maquis.
Mérimée n'a pas seulement exploré une Espagne, une Corse, un Orient rêvé, mais il a également exploré l'histoire de France un peu à la manière d'Alexandre Dumas avec les Trois Mousquetaires, et a tiré de différents épisodes des guerres de religion un livre tout à fait étonnant qui s'appelle « La chronique du règne de Charles IX ». La scène se passe dans une taverne. « Eh bien, ma belle enfant, aurais-je pour ma maîtresse la femme que j'aime ?» Mila lui donna une chiquenaude sur la main. « Heure et malheur, dit-elle. Des yeux bleus font du mal et du bien. Le pire, c'est que tu verseras ton propre sang. » Le capitaine et le cornette gardèrent le silence, paraissant tous les deux également frappés de la fin sinistre de cette prophétie. L'aubergiste faisait de grands signes de croix à l'écart. « Je croirais que tu es véritablement sorcière, » dit Mergy, « si tu peux me dire ce que je vais faire tout à l'heure. Tu m'embrasseras, » murmura la bohémienne à son oreille. « Elle est sorcière, » s'écria Mergy en l'embrassant. Il continua de s'entretenir tout bas avec la jolie devineresse et leur bonne intelligence semblait s'accroître à chaque instant. Truchen prit une espèce de mandoline qui avait à peu près toutes ses cordes et préluda par une marche allemande. Alors, voyant autour d'elle un cercle de soldats, elle chanta dans sa langue une chanson de guerre dont les reîtres entonnèrent le refrain à tue-tête. Le capitaine, excité par son exemple, se mit à chanter, d'une voix à faire casser tous les verres, une vieille chanson huguenote dont la musique était au moins aussi barbare que les paroles. Le prince de Condé, il a été tué, mais monsieur l'amiral est encore à cheval, avec la Rochefoucauld pour chasser tous les papots, papots, papots. Tous les reîtres, échauffés par le vin, commencèrent à chanter chacun, un air différent. Les plats et les bouteilles couvrirent le plancher de leurs débris, la cuisine retentit de jurements, d'éclats de rire et de chansons bachiques. Bientôt cependant le sommeil, favorisé par les fumées du vin d'Orléans, fit sentir son pouvoir à la plupart des acteurs de cette scène de bacchanal. Les soldats se couchèrent sur des bancs, le cornette, après avoir posé deux sentinelles à la porte, se traîna en chancelant vers son lit. Le capitaine, qui avait conservé encore le sentiment de la ligne droite, monta sans fourvoyer l'escalier qui conduisait à la chambre de l'hôte qu'il avait choisi comme la meilleure de l'auberge. Et Mergy et la bohémienne, avant la chanson du capitaine, ils avaient disparu, l'un et l'autre.
La sauvagerie se cache quelquefois derrière les apparences les plus mesurées. Qu'en pensez-vous, Colomba ?
Je ne sais pas cacher mes sentiments, pour mes amis comme pour mes ennemis.
Et c'est pour eux que vous portez ce poignard ? Vous n'hésiteriez pas à en donner un coup si on vous attaquait ?
Pourquoi ? Mon adversaire, lui, n'hésiterait pas.
Mérimée, à côté de son théâtre, si plein de passion, à côté de ses nouvelles extraordinaires, Colomba, La Vénus d'Ile, Matteo Falcone, a entretenu toute sa vie une correspondance extrêmement abondante. Et dans cette correspondance, il fait des portraits tout à fait savoureux. Et en particulier, le portrait, si je puis dire, de la province. La province, c'est comme ça que les Français appelaient, de manière générale, les provinces, tout ce qui n'était pas à Paris, à une époque où la technocratie n'avait pas encore baptisé ces endroits du nom abject de territoire, qui fait à la fois penser à l'administration du territoire et à quelques Far West. Voici par exemple ce qu'il écrit à un ami de Vézelay, le 9 août 1834. Vous saurez, cher ami, que je suis depuis un jour dans une ville très célèbre parce que Saint Bernard y prêcha la seconde croisade. Et maintenant si arriéré que le cirage anglais y est inconnu, et même l'encre de la petite vertu au point que j'ai été obligé d'en composer moi-même pour vous écrire. Figurez-vous un pain de sucre au milieu d'une vallée, lequel pain domine 10 lieues à la ronde. En haut est perchée une grande église, si grande que toute la ville s'y tiendrait, habitants et maisons. D'ailleurs, la plus belle vue du monde, rivière, bois et rochers, rien n'y manque. J'y ai trouvé un maire assez intelligent qui m'a fait de fort bonne grâce les honneurs de son église. Elle est dans un état pitoyable, il y pleut à verse et entre les pierres poussent des arbres gros comme le bras. La ville et le département, en se saignant, sont parvenus à voter 1800 francs pour la réparer. Il faudrait ajouter plusieurs zéros pour y faire les réparations nécessaires. C'est d'ailleurs ce que j'ai vu de plus beau en fait d'architecture romane. Les bas-reliefs et les chapiteaux sont admirables et une fois admis, leur style baroque est du plus grand effet. Que vous dirais-je des provinciaux ? quelle engeance. Le Constitutionnel et Victor Hugo les ont formés depuis quelque temps. Autrefois, c'était de bonnes gens qui parlaient comme M. Gorgibus. Maintenant, ils font des phrases qui durent 5 minutes à débiter. J'ai passé quelques jours à Nevers, où j'ai trouvé de belles églises romanes converties en brasseries et en magasins à fourrage. J'ai trouvé aussi le colonel Braque, avec qui j'ai souvent parlé de vous. Il a commencé par me dire qu'il me détestait, parce que dans un livre intitulé « Comédie de Clara Gazul », j'avais persiflé les officiers de la garde impériale qui étaient, comme chacun sait, l'aménité même. Je l'ai bien vite apaisé en parlant convenablement du grand homme, terme de province, et nous sommes devenus bientôt bons amis. En vieillissant, le colonel B a pris les goûts du siècle. Il apprend à lire à ses hussards par des méthodes abrégées, il invente des morts pour les chevaux, il écrit des brochures à l'usage des sous-officiers, enfin, il perfectionne et améliore bêtes et gens. Entre autres perfectionnements, il veut introduire l'homéopathie pour les chevaux et a guéri, dit-il, un cheval poitrinaire avec un millionième de grain d'arnica. Ces officiers ne ressemblent en aucune façon aux farouches hussards de l'Empire, ce sont des jeunes gens instruits, artistes, modestes et même naïfs. J'ai dîné avec les sous-lieutenants. On ne jurait point, on ne parlait pas de filles, de duels, mais de littérature, d'archéologie et de morale. Avec ça, ces messieurs sont bien à cheval et je crois qu'ils rendraient bon compte aux Prussiens si on leur en donnait. J'ai assisté à un bal donné par la ville au régiment et j'étais présenté comme un homme, je cite, « dont le cœur et la plume étaient également français ». Vous ne pourriez, je crois, imaginer les toilettes de ce bal et les façons de ces dames. Cela m'a beaucoup amusé pendant une demi-heure. Ensuite, j'ai trouvé que cela ne valait pas une soirée au café anglais. Je vis deux à la coque à Vézelay et de pommes de terre. Le pays ne produit que des sauces blanches, assez semblables pour la couleur et le goût à de la pâte, et du pain noir qui tient comme de la poix. Sachez qu'en Espagne, pays barbare, dites-vous, tout le monde, depuis le grand jusqu'au muletier, mange du pain blanc, qu'il y a de l'encre dans les auberges et qu'on ne laisse pas tomber en ruine les belles églises. Se peut-il que des sauvages comme les Français s'occupent de constitution et de droit politique quand ils ont tant de choses à faire pour vivre supportablement? Plus je vois mes compatriotes et plus je vénère Napoléon. Il est fâcheux qu'il n'ait pas régné 20 ans de plus. Il y aurait eu du pain et de l'encre à Vézelay. Écrivez-moi à Lyon où votre lettre peut arriver avant le 16 et donnez-moi des nouvelles du monde dont j'étais il y a 8 jours. J'écrirai demain au ministre pour lui demander de prendre en pitié les vieilles pierres qui se brisent, c'est-à-dire se délitent, se détruisent. Je crains d'oublier ici le français. Adieu, mille choses à tous les amis.
Ferdinand Bach, écrivain, qui rencontra, quand il était enfant, Mérimée.
Prosper Mérimée. J'ai aimé le surnom qu'on lui avait donné, car on l'appelait le polisson du directoire.
Je voudrais finir sur une lettre que j'aime beaucoup, parce qu'elle témoigne de l'humanité de cet homme qu'on disait à la fois froid et distant. C'est une lettre adressée à Jenny d'Aquin. La franchise et la vérité sont rarement bonnes auprès des femmes, elles sont presque toujours mauvaises. Voilà que vous me regardez comme un sardanapale parce que j'ai été un bal de figurante d'opéra. Vous me reprochez cette soirée comme un crime. Et vous me reprochez comme un plus grand crime encore de faire l'éloge de ces pauvres filles. Je le répète, rendez-les riches et il ne leur restera plus que leurs bonnes qualités. Mais l'aristocratie a élevé des barrières insurmontables entre les différentes classes de la société afin qu'on ne puisse voir combien ce qui se passe au-delà de la barrière ressemble à ce qui se passe en deçà. Je vais vous conter une histoire d'opéra que j'ai apprise dans cette société si perverse. Dans une maison de la rue Saint-Honoré, il y avait une pauvre femme qui ne sortait jamais d'une petite chambre sous les toits qu'elle louait moyennant 9 francs par mois. Elle avait une fille de 12 ans, toujours très bien tenue, très réservée, et qui ne parlait à personne. Cette petite sortait 3 fois la semaine dans l'après-midi et rentrait seule à minuit. On sut qu'elle était figurante à l'opéra. Un jour, elle descend chez le portier et demande une chandelle allumée. On la lui donne. La portière, surprise de ne pas la voir redescendre, monte à son grenier, trouve la femme, morte sur son grabat. Et la petite fille, occupée à brûler une énorme quantité de lettres qu'elle tirait d'une fort grande malle. Elle dit « Ma mère est morte cette nuit et elle m'a chargé de brûler toutes ses lettres sans les lire. » Cet enfant n'a jamais su le véritable nom de sa mère. Elle se trouve maintenant absolument seule au monde et n'ayant d'autres ressources que celles de faire les vautours, les singes ou les diables à l'opéra. Le dernier conseil de sa mère a été pour l'engager à être bien sage et à continuer à être figurante à l'opéra. Elle est d'ailleurs fort sage, très dévote et ne se soucie guère de raconter son histoire. Veuillez me dire si cette petite fille n'a pas infiniment plus de mérite à mener la vie qu'elle mène que vous n'en avez. Vous qui jouissez du bonheur singulier, d'un entourage irréprochable et d'une nature si raffinée qu'elle résume un peu pour moi toute une civilisation. Il faut vous dire la vérité. Je ne supporte la mauvaise société qu'à de rares intervalles et par une curiosité inépuisable de toutes les variétés de l'espèce humaine. Je n'ose jamais aborder la mauvaise société en homme. Il y a là quelque chose de trop repoussant, surtout chez nous. Car en Espagne, j'ai toujours eu des muletiers et des toreros pour amis. Ne croyez pas que j'ai une prédilection pour la canaille. J'aime simplement avoir d'autres mœurs, d'autres figures, à entendre un autre langage. Les idées sont toujours les mêmes. Et si l'on fait abstraction de tout ce qui est convention ou règle, je crois qu'il y a du savoir-vivre ailleurs que dans un salon du Faubourg Saint-Germain. Mais tout cela est de l'arabe pour vous. Et je ne sais pas pourquoi je vous le dis.
Les admirations littéraires de François Sureau. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestudia. Elle a été préparée par Perrine Malinge. La programmation musicale est de Thierry Dupin. Elle a été enregistrée par Julien Chabassu et mixée par Bruno Mourlan. La semaine prochaine, nous retrouverons Sophie Marceau. Elle lira des textes sur la création littéraire.